esto que te ama. Una brecha, una puerta, una llama. La Habana.
Wow, Habana Miss Kingston, Sauna.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Pierre Lahoutchou, vous êtes député européen et vous êtes au mouvement Nouvelle Donne, mouvement engagé à la hauteur des enjeux face à l'urgence climatique et sociale. Donc vous étiez à Bordeaux, car ce dimanche se tenait une manifestation contre un projet de puits pétrolier, de forage pétrolier sur le bassin d'Arcachon. Il y avait beaucoup de monde, environ 3000 personnes, dont des personnalités majeures de la lutte climatique, Greta Thunberg, par exemple. Quels enjeux se sont cristallisés sur cette mobilisation qui s'est tenue hier au niveau européen et qui a démarré à Bordeaux ?
C'est juste incroyable aujourd'hui, encore 2024, que des gens veuillent faire des nouveaux puits de pétrole. On voit que le dérèglement climatique s'aggrave et c'est très concret. Un copain qui est venu me chercher à la gare de Bordeaux-Saint-Jean m'a dit qu'une de ses amies, sa maman, était hospitalisée pendant la nuit près du bassin d'Arcachon et que la clinique où elle devait aller était envahie par les eaux, que la salle où il y avait le scanner, il y avait 40 cm d'eau. Pourtant, c'est pas une grande tempête, mais avec le réchauffement climatique, on voit le niveau de l'océan qui monte. Il y a quelques semaines, j'étais dans le Pas-de-Calais, les paysans ont tout perdu. On a vu des paysans, depuis 3 mois, il y a une odeur horrible, tous les légumes sont en train de pourrir dans les champs, un garagiste a perdu toutes ses machines parce que les machines électriques qui servent pour réparer les voitures. Et par contre, dans le sud du pays, dans les Pyrénées-Orientales, les paysans ne vont même pas faire de semis parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Et en Catalogne, on commence à rationner l'eau. Donc il faut être aveugle et sourd pour ne pas comprendre l'urgence climatique. Et ce que nous disent tous les climatologues, c'est qu'il faut stopper les nouveaux forages de pétrole. Mais pas seulement les climatologues. Même l'Agence internationale de l'énergie, il y a 2 ans, il y a un rapport qui était à la une de tous les journaux et que tous et toutes hier on a cité pendant la manif, qui disait même la plus haute autorité mondiale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, a dit il y a 2 ans, il faut stopper immédiatement tous les nouveaux forages de pétrole. Bien sûr, on a encore besoin d'essence, tous ceux et celles qui ont des voitures, dans les usines, on a besoin de pétrole. Mais ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'avec les forages existants, en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, on a assez de pétrole pour les 20 ans qui viennent, on a assez de pétrole, on ne va pas gratter la terre pour trouver de la nourriture et se priver immédiatement de toutes les voitures. Mais l'AIE dit, on a assez de pétrole. Et il faut investir vraiment dans les transports en commun, il faut investir dans les pistes cyclables, il faut investir dans la rénovation thermique et il faut développer les renouvelables. Donc c'est pas 3 rigolos dans leur coin qui ont pris un café ou qui ont bu un verre de vin rouge en trop. C'est la plus haute autorité mondiale de l'énergie qui dit il faut stopper tous les nouveaux forages. Et malgré ça, en Ouganda, c'est Total. En Ouganda ou au Yémen, c'est Total qui fait des forages catastrophiques. Je suis allé 9 jours en Ouganda avec d'autres députés. Ils veulent foutre en l'air le plus beau parc national d'Ouganda. Churchill était tombé amoureux de cet endroit. Il y a des girafes, des lions, c'est d'une beauté incroyable. Et Churchill disait que c'était la perle de l'Afrique. Eh bien, Total veut faire des forages. Et après ça, un pipeline de 1400 kilomètres, un pipeline chauffé pour que le pétrole aille plus vite et qui ferait 34 millions de tonnes de CO2 chaque année. Et donc, ça, c'est en Ouganda, ça se voit pour certains, c'est un peu loin, mais le CO2 qui soit émis en Ouganda ou à Bordeaux ou à Mérignac, c'est le même. Et donc là, c'est ahurissant, y compris que le gouvernement laisse faire. Emmanuel Macron, j'ai jamais été un proche de Macron, j'ai jamais voté pour lui au premier tour, mais il y a 7 ans, quand il est arrivé au pouvoir, il avait fait le One Planet Summit. Et les premiers mots d'Emmanuel Macron, c'est « on est en train de perdre la bataille ». Les premiers mots d'Emmanuel Macron quand il ouvrait le One Planet Summit il y a 6 ans ou 7 ans, c'est « on est en train de perdre la bataille, on le sait ». Devant 80 chefs d'État, devant 3000 personnes, Macron reprenait. Il y a 30 ans, les dirigeants avaient une excuse, ils ne savaient pas, mais ils disaient « nous n'avons aucune excuse ». Macron, il y a 6 ans, dit « nous n'avons aucune excuse, nous savons ». Puis il a fait le Haut Conseil pour le Climat. J'étais un des 9 sages avant d'être député, j'étais membre du Haut Conseil pour le Climat. Et devant tout le monde, Macron me tutoyait, il expliquait « Pierre, on a besoin de gens comme toi pour nous pousser à aller plus vite, plus loin ». Très bien, il y a eu la convention citoyenne. 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé comme des fous, des week-ends de 3 jours, ils venaient travailler avec des climatologues sur l'urgence, puis les solutions très concrètes. Emmanuel Macron avait promis qu'il allait reprendre leurs propositions et il a repris 10%. Et là, quand il nous a demandé de voter pour lui pour qu'il soit réélu face à Madame Le Pen, et j'ai voté pour lui parce que je ne voulais pas de Le Pen, mais il nous a dit « mon deuxième mandat sera écologique ou ne sera pas ». Et il ne fait rien sur la rénovation thermique, il ne fait rien sur les transports en commun, et il laisse faire des nouveaux puits de pétrole. C'est juste. Il n'y a pas de mots polis pour dire à quel point c'est inquiétant.
Donc un petit peu plus largement, là, sur les élections européennes qui vont se tenir donc du 6 au 9 juin, on voit que la jeunesse est souvent absente dans les urnes pour les élections européennes. Quel message vous adresseriez à la jeunesse pour la mobiliser pour ces élections européennes ?
D'abord, je comprends que beaucoup de gens soient déçus par la politique. Nous, si on a créé un nouveau parti, Nouvelle Donne, avec des amis, y compris de Bordeaux, Aline, Cyril et d'autres qui vivent à Bordeaux, c'est qu'on était déçus. On avait voté pour François Hollande et on voyait que François Hollande nous avait dit « mon adversaire, c'est la finance, on va tout changer au niveau européen, on va lutter contre le chômage », et puis il n'a rien fait de tout ça. Donc je comprends très bien que les gens soient en colère. Je comprends, moi, mes beaux-frères ne vont quasiment jamais voter parce qu'ils pensent que ce soit la droite ou la gauche, ils se foutent de nous, ils se goinfrent et ils se foutent de nous. Donc il y a de bonnes raisons d'être en colère, mais c'est pas forcément en étant en colère qu'on va changer le monde. Parce que ceux qui se goinfrent, effectivement il y en a qui se goinfrent, eux ils sont très confortables, et c'est pas eux qui voient leur retraite diminuer, c'est pas eux qui voient leur champ de blé inondé ou foutu en l'air par la sécheresse, voilà. Donc être en colère ne suffit pas. Donc nous c'est pour ça qu'on a créé un nouveau parti, Nouvelle Donne, pour dire on n'est pas content avec le PS, on n'est pas content avec ce que faisait à l'époque Europe Écologie, mais ça veut pas dire qu'il faut déserter. Et pourquoi ça s'appelle Nouvelle Donne? C'est parce qu'on fait référence au New Deal. Quand Roosevelt arrive, je suis nul en histoire mais ça j'ai retenu, quand Roosevelt arrive après la crise de 29, il y avait des millions de pauvres, des millions de précaires, des paysans qui étaient ruinés, et en 3 mois seulement, en 3 mois, Roosevelt fait passer 15 réformes, le New Deal, la Nouvelle Donne, il fait la séparation des banques pour casser la spéculation, les banquiers sont furieux et gueulent contre Roosevelt en tant que c'est un communiste. Mais Roosevelt fait la séparation des banques, il fait des grandes réformes des banques, il améliore le revenu des paysans, il protège les forêts. 15 réformes en 3 mois qui ont redonné de l'espoir et qui ont changé la vie quotidienne à des millions de gens. Et donc ça veut dire que la politique n'est pas forcément décevante. Le monde a changé depuis 1933, évidemment. Mais il y a des gens qui disent que la politique, forcément, ils trahissent nos espoirs, ils se foutent de nous. Mais non, Roosevelt est la preuve qu'on peut tenir ses engagements, réussir. Et Roosevelt va être réélu 3 fois. Tant qu'il est vivant, le peuple se dit, ce gars-là, c'est pas un magicien, il a pas tout réglé, mais il fait du bon job et sa boussole, c'est la justice sociale, c'est la dignité pour tous. Donc, je comprends que les gens soient déçus, mais en même temps, si on veut changer les choses, concrètement, aujourd'hui, il y a des milliers de milliards qui ont été créés par la Banque centrale. Est-ce que cet argent colossal va sur les marchés financiers ou est-ce qu'on le va pour la rénovation thermique? On se bat au niveau du Parlement européen. Moi, je suis rapporteur général du budget. Le Parlement m'a donné une grosse responsabilité. Il y a 2 ans, c'est moi qui ai négocié tout le budget de l'Europe au nom du Parlement. Et j'ai proposé pour avoir plus d'argent pour le climat, pour la rénovation thermique, pour les transports en commun, pour les aides à l'agriculture. J'ai proposé avec d'autres qu'il y ait une petite taxe sur les marchés financiers. C'est très facile à comprendre. Tout le monde, vous et moi, quand on fait nos courses, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé 20% de TVA. Et l'autre jour, dans l'hémicycle à Bruxelles, j'ai montré une boîte de raviolis en disant même les gens qui dorment dans la rue. Les gens qui dorment dans la rue à Bordeaux, à Talence ou à Bruxelles, quand ils vont acheter de quoi manger, ils payent 5,5% de TVA. Donc même les plus pauvres, ils payent 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, les marchés financiers, c'est 0,0 la TVA. Donc le Parlement, une grande partie du Parlement, sauf l'extrême droite, demande une taxe sur la spéculation, mais il y a des lobbies qui bloquent. Et donc, pourquoi aller voter? C'est pour renforcer ceux qui veulent, à mes yeux, le bien commun. Et il y a des textes qui se jouent à une voix près.
Donc je comprends très bien ceux et celles qui sont déçus par l'action des politiques, mais d'abord, tous les politiques ne se valent pas. Il y a des politiques qui se battent pour le bien commun. Concrètement, moi, je suis allé en Ouganda, j'ai obtenu qu'il y a une résolution du Parlement qui a stoppé le pipeline de façon provisoire, mais au moins, ça a beaucoup embêté Total Energy. Ils n'arrivent plus à trouver des banquiers. Le fait que le Parlement européen ait voté contre ce pipeline catastrophique. On a obtenu une directive pour qu'il y ait un salaire minimum dans tous les pays. En France, ça change rien. Heureusement, il y avait un salaire minimum, mais il y a des pays où, heureusement, grâce à cette directive, on aura beaucoup moins de gens qui sont exploités au travail. On se bat pour une directive pour les travailleurs des plateformes, ceux et celles qui livrent des pizzas, quel que soit leur âge. Et la France est le seul pays qui bloque, mais on espère gagner. Et puis moi, si je suis encore député européen, comme d'autres, je pense qu'il faut vraiment lutter contre la précarité chez les jeunes. Je vois tous les jeunes qui sont à la soupe populaire ou qui doivent cumuler les petits boulots alors qu'ils devraient juste s'occuper de leurs études et s'occuper de leur vie perso. Quand on est entre 18 et 25 ans, on a plein de choses dans sa vie perso importantes et il faut se former. Et heureusement, il y a des pays où on a mis en place des solutions efficaces. Par exemple, au Danemark, tous les jeunes tous les jeunes entre 18 et 25 ans reçoivent 840 euros par mois. 840 euros, eh bien, c'est quand même assez cool quand on sait que quoi qu'on fasse, mais en 18 et 25 ans, on n'est pas obligé de courir après des petits boulots, on n'est pas obligé de choisir entre est-ce que je fais mes études, est-ce que je vais voir ma copine ou est-ce que je gagne ma vie. On a une allocation d'autonomie. Donc si c'est possible d'avoir ça au Danemark, pourquoi c'est pas possible dans tous les pays? Et donc, de même, un autre sujet est très important, les violences faites aux femmes. En Espagne, il y a eu une loi qui fait que dès qu'une femme a été battue ou se sent en danger, elle peut aller voir un policier qui a été formé pour l'accueillir, pour lui parler, pour l'écouter vraiment, prendre en compte ce qu'elle vit, immédiatement lui trouver un logement, qu'elle ne retourne pas avec l'homme qui la bat. Donc, est-ce que ce qui marche bien ici, au Danemark, pour lutter contre la précarité des jeunes, ici, en Espagne, pour lutter contre les violences faites aux femmes, ici, pour développer un modèle d'agriculture avec beaucoup moins de produits chimiques? Est-ce qu'on est capable d'avoir une Europe qui nous aide à accélérer sur tous ces sujets? Et ça, ça dépend des élections. Et il y a de plus en plus de votes qui se font à une voix près. Parce qu'il y a des clivages. Il y a 4 ans, tout le monde disait le climat, c'est une priorité. Maintenant, beaucoup de gens disent le climat, c'est pas tellement une priorité. Laissez-nous respirer. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Et il y a de plus en plus de voix, de votes, des règles importantes qui se jouent à une voix près. Donc peut-être que vous avez des raisons d'être déçus, mais allez voter le 9 juin. En France, les élections sont le 9 juin. Pour des gens qui mettent au cœur la question sociale, la question de la justice sociale, de la démocratie, du climat, des nouvelles relations avec les pays du Sud, peut-être que si vous allez voter, si vous êtes 10 ou 15 de plus sur Bordeaux, allez voter pour des gens qui portent ces valeurs, ça peut changer les prochaines règles pendant 5 ans.
L'Europe considère actuellement l'immigration clandestine contre quelque chose contre lequel il faudrait lutter. Mais au vu de l'histoire coloniale et productiviste de notre continent, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer plutôt un système de pollueur-payeur et accueillir notamment les réfugiés climatiques ou tout autre en guise de réparation ?
Honnêtement, c'est vraiment choquant de voir tous ceux et celles qui traversent la Méditerranée, qui savent qu'ils risquent de se noyer. Ils sont pas débiles. Ils savent qu'en moyenne, il y a une chance sur 7 de ne pas finir la traversée. Et donc, s'ils prennent ce risque, c'est vraiment qu'ils vivent dans un pays où ça devient invivable. Soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce qu'ils ont essayé, ils veulent vivre mieux. Ils ont traversé des pays où ils ont été violés ou mis en situation proche de l'esclavage. Et c'est indigne, la réaction de l'Europe. C'est indigne qu'on ne soit pas capable de les accueillir de façon plus fraternelle. Je suis plus vieux que vous. Moi, je me souviens à l'époque des boat people. Eh bien, on avait accueilli 150 000 réfugiés en France en quelques semaines. Nous, chez nous, papa travaillait à EDF, on avait une bonne maison, on habitait à Toulouse, on avait accueilli 3 jeunes qui étaient réfugiés, 3 jeunes qui avaient perdu leurs parents, et on avait, pendant 1 an et demi ou 2 ans, ça se passait très bien. Je me souviens, Catherine et ses 2 frères habitaient dans notre famille, avec notre famille, et au total, la France a accueilli 150 000 personnes. Donc c'est quand même choquant, on est 40 ans plus tard, on n'a jamais été aussi riche de ne pas accueillir de façon fraternelle et non violente des gens qui ont quitté leur pays. Donc je crois, comme l'a dit le pape à Marseille, qui en même temps le droit à être accueilli et le droit de vivre dans son pays. Ce qui veut dire aussi qu'il faut, quand vous parlez d'une dette, on a une énorme dette vis-à-vis des pays du Sud. Je suis allé 3 fois en Afrique, moi, depuis que je suis député. Je ne prends jamais l'avion dans ma vie perso, mais quand je vais inviter par des Africains et des Africaines à travailler, et j'ai vu la pauvreté, pas partout, mais encore à Bamako ou ailleurs, une pauvreté monstrueuse, le besoin d'avoir un investissement dans l'énergie. Jean-Louis Borloo, il y a 10 ans, avait un grand projet pour permettre l'accès à l'électricité en disant la plupart des gens aimeraient bien rester dans leur pays. Ils ont des amis, des gens qu'ils aiment, disons, c'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte son village ou sa ville. Souvent, d'abord, on va dans les bidonvilles de la capitale la plus proche, et puis après ça, on se dit, j'essaye de traverser pour aller en Europe. Et donc, est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir un développement économique de l'Afrique sans pétrole et sans gaz? Et donc, Borloo, c'est pas ma famille politique, mais je respecte tout à fait son travail, et propose un grand plan d'investissement pour que 80% des Africains et Africaines aient accès à l'électricité. Et il y a tout ce qu'il faut comme ressources. Ici, c'est le photovoltaïque, ici, c'est l'hydraulique, il y a plein de cerveaux bien fait en Afrique aussi, mais il y a un besoin de capital, d'investissement. Et c'est nul, pour être poli, puisqu'on est enregistré, c'est nul qu'on l'Europe ne soit pas capable de mettre de l'argent pour aider l'Afrique dans son développement économique. C'est nul aussi, donc je suis allé en Ouganda avec d'autres députés, et je fais voter une résolution pour stopper le pipeline ICOP. C'est une honte, c'est M. Pouyanné qui a convaincu, c'est Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui a convaincu le dictateur ougandais de faire ce projet. Au début, ce n'était pas le projet du dictateur. C'est Pouyanné qui l'a convaincu pour faire de l'argent pour les actionnaires de Total. Mais nous, donc, j'ai fait voter une résolution par le Parlement, et depuis, j'ai encore gardé le contact avec des dirigeants ougandais, et je leur dis, si vous acceptez que le pétrole reste dans le sol, on peut compenser, parce que Pouyanné leur a promis, le patron Total leur a dit, si vous nous laissez faire des trous dans votre parc national, si vous nous laissez exploiter le pétrole, on va vous donner 0,5 milliard chaque année. Et l'Ouganda a besoin d'argent. parce qu'aujourd'hui, leur système d'éducation est payant. Et donc, du coup, il y a plein d'enfants qui ne vont pas à l'école, en particulier des filles. Et donc là, le système d'éducation est payant. Il faudrait mettre en place de l'irrigation. Avec les Chinois, ils font des grands barrages hydroélectriques, donc ils auront bientôt de l'électricité, mais ils n'ont pas les réseaux pour les faire arriver, et ils veulent que les réseaux soient publics pour pas que ce soit trop cher. Donc, encore une fois, le dictateur ougandais, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est lui qui est le patron de l'Ouganda, et quand Pouyanné lui dit, si vous laissez faire du, si on exploite votre pétrole, vous aurez de l'argent, est-ce que nous, on est capable de dire, au nom, pour lutter contre le dérèglement climatique, on vous demande de laisser le pétrole dans le sol, mais on a compris que vous avez besoin d'argent pour l'éducation, pour l'accès à la santé, pour l'électricité. Et donc l'Europe devrait être assez riche pour donner 0,5 milliard chaque année à l'Ouganda si elle renonce à son pétrole. Donc pour toutes ces raisons, la question de l'immigration est vraiment scandaleuse. On verse des larmes de crocodile, mais c'est une honte. On devrait beaucoup mieux accueillir ceux et celles qui veulent venir, beaucoup mieux les intégrer. Tout à l'heure, j'étais dans un centre social où on fait du français langue étrangère pour 250 adultes qui ne sont pas nés en France, mais qui veulent apprendre le français. Et hélas, ce centre social voit qu'il a de moins en moins d'argent et il se demande est-ce qu'il va être capable de continuer à faire cette action d'alphabétisation qui est très utile. Et est-ce qu'on se donne les moyens que l'Afrique ait un développement économique sans passer par la case pétrole?
Alors, depuis plusieurs années, l'Union européenne travaille sur un pacte vert qui contient une cinquantaine de lois avec comme objectif la neutralité carbone d'ici 2050 à l'échelle européenne. Où est-ce que ça en est, ce projet ?
Alors, on peut dire que quand même, grâce au mouvement social, le climat est devenu une priorité. Votre première question, c'est si je suis venu à Bordeaux, c'est parce qu'il y avait une grosse manif dimanche contre les puits de pétrole, où il y avait Greta Thunberg, il y avait Camille Etienne, il y avait Christophe Cassou, il y avait plein de gens bien, des politiques aussi, de Marie Toussaint, Pierre Urmic et d'autres. Donc, le mouvement social, parfois certains se demandent, mais est-ce que c'est utile? La réponse est oui. Évidemment, au niveau européen, il n'y a aucun doute que s'il n'y avait pas eu les jeunes dans la rue toutes les semaines en Belgique ou tous les mois en France, sans doute Madame Van der Leyen, qui est la présidente de la Commission, n'en aurait pas fait une priorité. Et il y a 4 ans, c'était une priorité qui était assez partagée, lutter contre le réchauffement climatique à cause des sécheresses, à cause des inondations, et faire baisser le CO2. On a fait des progrès quand on pose des règles, en disant par exemple qu'il ne faudra plus aucune nouvelle voiture avec un moteur thermique à partir de 2035. On a fait des progrès, mais on voit qu'on n'a fait qu'une partie du chemin et qu'en particulier, il n'y a pas les financements. Parce que dire aux gens, vous n'aurez plus le droit d'avoir de nouvelles voitures thermiques, celles qui polluent beaucoup, si en même temps, soit on n'a pas fait des transports en commun efficaces, soit on a fait et les transports en commun et aussi des voitures électriques pas chères et plus petites, parce qu'on n'a pas besoin de gros montres qui font 1,5 tonne ou 2 tonnes. Donc il y a un besoin d'investissement massif dans les transports en commun, dans les piste cyclables, et là où il n'y aura pas de transports en commun, dans des petites voitures moins chères qui sont autonomes et qui sont électriques. Et si on ne met pas ces financements, je pense que ça va gueuler et qu'au dernier moment, on va repousser. Donc, de même, est-ce qu'on fait un effort sur la rénovation thermique? Le Parlement européen se bat pour qu'il y ait des aides, pour que vous, moi, partout où on habite, on ait des aides pour faire de la rénovation thermique, on ait des aides pour l'agriculture. Les agriculteurs ne sont pas débiles, hein. L'autre jour, je suis allé à la rencontre des agriculteurs qui sont venus à Bruxelles. Pendant 3 quarts d'heure, spontanément, leur revendication, c'était juste « on veut un revenu correct, on veut un revenu correct, on veut un revenu correct ». Et puis une de vos collègues de El País a dit « et le plan climat, vous n'avez pas parlé du plan climat ?» Ben oui, ils n'avaient pas parlé du plan climat. Et ils ont dit, la réponse du chef des syndicats des agriculteurs, pas de la FNSEA, hein, pas de la FNSEA, mais des syndicats des vrais agriculteurs, des petits agriculteurs, sa réponse était limpide. « On n'a rien contre le plan climat ». On n'a rien contre le plan climat. Nous sommes les premières victimes du réchauffement climatique, mais on ne peut pas nous demander de tout payer, de payer nous-mêmes la transformation. Donc les agriculteurs étaient très clairs. Autant ils veulent un vrai revenu, ils en ont marre de vivre des subventions, de mendier des subventions avec des dossiers super compliqués, technocratiques, et les subventions, pour certains, n'arrivent même pas à en vivre. Je ne parle pas des gros céréaliers, mais de ceux qui ont 50 hectares. Donc autant ils veulent un vrai revenu sans avoir besoin de subventions. Autant, par contre, pour faire face au dérèglement climatique, ils ont besoin de subventions, mais comme tout le monde. Dans quelques jours, là, à Bruxelles, je vais recevoir le patron de la SNCF, M. Farandou, qui dit qu'il faut mettre 100 milliards sur les transports en commun, et il a raison. Et aussi bien la Fondation Abbé Pierre que les gens du logement disent qu'il faut des aides à la rénovation. Donc ce serait tout à fait normal. Donc on a fait des avancées sur la question du climat, on a fait quelques petites avancées, mais vraiment pas assez sur les pesticides, mais il y a besoin d'un accompagnement. Un agriculteur, ils ne sont pas débiles, je le répète, ils voient leurs copains qui ont un cancer, et ils se disent quand même qu'il y en a beaucoup de cancers dans la région et que ça a peut-être un lien avec les pesticides. On a vu quand même des études sérieuses, ben oui, ils ne sont pas débiles, ils n'ont pas envie d'avoir un cancer, mais est-ce qu'on les aide à changer leurs pratiques? Stopper les intrants chimiques, il faut 3 ou 4 ans avant que la terre retrouve sa fécondité. Si vous arrêtez complètement les engrais, c'est tout à fait possible d'avoir une bonne fécondité de votre terre, mais il faut mettre des plantes qui vont fixer l'azote, des légumineuses et autres qui vont enrichir le sol. Il faut laisser les vers de terre revenir. Et c'est possible. Il y a plein d'agriculteurs dans tous les types de production qui ont changé leurs pratiques, soit pour baisser très fortement les pesticides et les produits chimiques, soit pour en sortir. Mais ils ont besoin pendant 3 ou 4 ans qu'il y ait des aides financières. Et aujourd'hui en France, le problème c'est que les aides tous les 6 mois ça change parce que le ministre des Finances s'en fout, qu'il veut faire des économies et c'est décourageant parce qu'il y a besoin. Aucun agriculteur ne peut se lancer dans une telle transformation s'il n'a pas une sécurité pour sa famille et pour lui-même et qu'il sache que pendant 3 ans, on va l'aider. Et après ça, il n'aura pas besoin d'aide. Il aura retrouvé un nouvel équilibre dans son exploitation.
Alors justement, concernant les pesticides, récemment, la Commission européenne a abandonné un texte qui ambitionnait de réduire de moitié l'utilisation et les risques liés aux pesticides d'ici 2030. Comment vous analysez cet abandon ?
Je trouve que c'est scandaleux parce que la demande, je suis le seul élu qui est allé à la conférence de presse. Les agriculteurs, quand ils sont venus, les agriculteurs en colère sont venus il y a maintenant 3 semaines à Bruxelles et je m'étais mis au fond de la salle pour écouter tout discrètement et leur demande principale était essentiellement sur le revenu. Voilà. À aucun moment, ils n'ont dit qu'il fallait stopper le plan climat ou stopper les plans pesticides. Et même sur une chaîne de télé, il y avait un témoignage juste avant que je parle d'un agriculteur pourtant de la FNSEA, donc pas le chef de la FNSEA, mais un autre, qui disait si on avait un bon prix pour nos produits, on pourrait respecter les règles environnementales. Si on avait un bon prix pour nos produits, on pourrait avoir plus de jeunes qui s'installent et qui reprennent la ferme. Si on avait un bon prix pour nos produits, on pourrait embaucher des salariés, travailler moins et avoir un nouvel équilibre. C'est quelque chose qui est très important et qui est très nouveau chez les agriculteurs. Il y a 50 ans, monsieur et madame étaient agriculteurs, étaient prêts à sacrifier leur vie pour le boulot, pour l'élevage, pour l'exploitation. Mais aujourd'hui, de plus en plus souvent, le conjoint ou la femme n'est pas agricultrice et a envie. Elle a aussi des week-ends, elle a un autre job. Ils sont très heureux ensemble, mais souvent, ils ne vivent plus dans la ferme même. Ou alors, même s'ils vivent dans la ferme, madame, souvent, elle a un boulot, elle a un week-end, elle aimerait profiter du week-end, elle aimerait avoir des congés. Et du coup, il y a une aspiration au bien-être. Il y a plusieurs agriculteurs, j'ai passé des heures à les écouter et à dialoguer à Bruxelles, et il y en a plein qui disent on aimerait un autre équilibre de vie, il n'y a pas que la ferme dans la vie, voilà. Il y en a un qui disait, j'ai un Samuel qui a 30 ans, qui me disait j'ai honte de dire que je suis agriculteur, j'ai honte de dire parce que je ne vis que des subventions. Les gens se disent, ouais, il a 30 000 euros de subventions, mais ça couvre à peine mes frais, et il dit, il y a des moments où je dois choisir entre, il y a une vache qui va mourir, est-ce que je m'occupe de la vache qui va mourir ou de ma femme. C'est quand même voilà. Et donc, ces gens-là ont juste envie de vivre dignement comme vous et moi. Ils ont envie de ne pas travailler 90 heures par semaine et d'être en burn-out ou, voilà. Donc, il y a une, mais c'est la même, on ne reconnaît pas aujourd'hui, je trouve que ceux qui nous dirigent ont complètement oublié les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, que ce soit pour les agriculteurs, pour les gens au RSA. La semaine dernière à Strasbourg, j'ai retrouvé une copine qui vit avec le RSA depuis 10 ans et c'est la honte. Toujours 5 millions, je viens de vérifier les chiffres de Pôle emploi, France Travail. Il y a toujours plus de 5 millions d'inscrits à Pôle emploi. 3 millions de gens qui sont complètement au chômage, qui font 0 heure par semaine. Mais 5 millions, si on tient compte des gens qui ont un petit boulot, mais qui aimeraient avoir un vrai boulot pour gagner mieux leur vie. Et 1 500 000 qui sont au RSA, qui sont plus comptés comme chômeurs. Et on est en train de précariser. On n'est plus capable de créer des emplois de bonne qualité, mais on est en train de précariser les gens au RSA pour leur dire, si vous acceptez pas un boulot, on vous coupe les vivres. C'est une honte. C'est une honte. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés financiers. Le nombre de milliardaires a triplé en 15 ans. C'est pas du gauchisme que de dire ça. Le nombre de milliardaires a triplé. On n'est pas capable de mettre en place une taxe sur la spéculation. On peut pas mettre en place une taxe sur les milliardaires. Et on va demander un effort au RSA. Cette dame de Strasbourg, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, 12 ans, j'ai fait sa connaissance, elle avait un appartement. Et déjà, ça m'avait frappé. Elle m'expliquait qu'elle m'avait dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, j'ai la trouille. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, j'ai peur que ce soit un huissier, parce que j'ai des trucs en retard. Donc déjà, il y a 10 ans, ou 12 ans, elle vivait dans la peur. Il y a une fois, ça m'avait frappé aussi, on prenait un café. Je lui dis, est-ce que tu veux, Isabelle, qu'on prenne un café? Et on voyait qu'elle se demandait, qui c'est qui va payer? Alors que pour vous et moi, un café à 1 euro, 1,50 €, on s'en fout, on prend un café, puis l'un de nous deux paye. Mais pour cette dame au RSA, savoir qui va payer le café, c'est un trouble. Et là, elle a même plus son appart perso, elle vit chez son fils, 2 mois chez son fils, 2 mois chez sa fille, c'est humiliant. Donc on est dans des pays qui n'ont jamais été aussi riches, on n'a jamais eu autant de gains de productivité, c'est aussi pour ça qu'on va relancer le débat sur la semaine de 4 jours, parce qu'on produit beaucoup plus avec les machines, avec les robots, avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens, on produit beaucoup plus avec moins de travail, et ça devrait être une bonne nouvelle. On devrait tous travailler moins. Vous avez vu en Espagne, en Allemagne, on relance le débat sur la semaine de 4 jours, mais il n'y a qu'en France qu'on nous dit qu'il faut travailler plus. On est dirigé par des gens qui ont dans la tête, certains sont jeunes pour l'état civil, mais ils n'ont que du vieux dans la tête. Ils n'ont rien compris à ce qu'on vit depuis 40 ans.
Donc concernant les élections européennes qui arrivent au mois du juin, on a quand même l'impression d'une gauche assez divisée. Pourquoi tout le monde part divisé comme ça pour les élections européennes, et comment est-ce qu'on arrive à rassembler les partis ?
Avec les copains et les copines de Nouvelle Donne, on regrette beaucoup cette division. On a tout fait déjà au moment des présidentielles. On s'est engagé pour la primaire populaire. Et avec un groupe de jeunes engagés pour le climat, j'avais fait une grève de la faim pour dire « Mais arrêtez vos bêtises, arrêtez vos bêtises. » S'il y a 5 candidats qui disent « Ma priorité, c'est la justice sociale, ma priorité, c'est le climat. » Il y a quelques différences entre nous, mais franchement, si on continue ces conneries, on va laisser le pouvoir à Emmanuel Macron. Et lui, il ne fera rien sur le climat. Lui, il ne fera rien pour un renouveau démocratique. Lui, il ne fera rien contre la précarité ou sur les questions de logement. Et c'était gros comme une maison, et c'était une évidence. Mais chacun disait, mais non Pierre, les sondages se trompent, je vais gagner, viens derrière moi, je vais gagner. Tous étaient persuadés que celui qui a fait 16%, celui qui en a fait 4,5%, celle qui en a fait 1,6%, ils pensaient tous que tout seul ils allaient gagner. Donc juste, est-ce qu'on a compris l'urgence? Est-ce qu'on est capable d'avoir un peu de modestie? Si on a compris l'urgence, c'est dramatique d'avoir laissé Macron pendant 5 ans, et ce serait encore pire si on a Le Pen ou Édouard Philippe. Donc c'est dramatique, et un peu de modestie, c'est dire... Je suis peut-être pas débile, je suis un cerveau qui marche, j'ai quelques idées intéressantes, mais celui qui est à côté, celle qui est en face, n'est pas débile non plus, on peut faire une équipe. Au rugby, personne, même les meilleurs ne se disent pas qu'ils vont gagner un match tout seul. Un jour, j'ai vu un article, la phrase qui était repris en gros, c'est « Il n'y a pas de joueurs de rugby, il n'y a que des équipes de rugby ». Alors bien sûr, il y en a un qui nous épouse, on le trouve génial, voilà, mais il a conscience que tout seul, il ne peut rien faire. Donc être en politique, on est capable de comprendre que c'est un sport collectif et qu'il faut qu'on fasse une équipe. Et j'espère que pour éviter la catastrophe dans 4 ans, on sera capable de faire une équipe. Et là, pour les européennes, je ne comprends pas. Je l'ai encore dit dans la manif, j'étais à côté de Marie Toussaint et à côté d'autres familles politiques. Je ne comprends pas pourquoi on fait des listes séparées. Parce qu'honnêtement, si vous regardez, quand je vais en Ouganda, pour lutter contre le pipeline total, je propose à Marie Toussaint et Yannick Jadot de venir. Quand vous regardez nos votes, je pense qu'à 98%, 98%, comme on dit à Bruxelles, je pense qu'à 98%, on vote pareil. On est, quand je dis à Marie Toussaint que je vais sortir un petit liste sur la semaine de 4 jours, elle me dit que c'est super, parce qu'il voudrait aussi se militer pour la semaine de 4 jours. Donc honnêtement, je ne comprends pas du tout. Autant peut-être qu'avec Mélenchon, on a des différences sur les questions internationales, c'est vrai, peut-être qu'on a des différences sur certains sujets, mais avec entre les socialistes, les gens de Nouvelle Donne, les gens d'Europe Écologie, je vois qu'une différence. Donc c'est pour être honnête, c'est des questions de boutique. Europe Écologie pense que les européennes, c'est leur élection, qu'il y a une fois Cohn-Bendit a fait 17, et donc ils pensent qu'ils vont faire 17%. J'en suis pas sûr, et je trouve que ça aurait de la gueule. Là, j'ai vu plein de jeunes hier dans la manif, à dimanche, qui étaient en même temps contents de faire la bise à Marie Toussaint, qui venaient me dire que c'était super ce que je faisais. Et si on est sur deux listes différentes, ils vont se dire, mais mince, pourquoi ils sont pas sur la même liste? Ils ont les mêmes idées.
Par rapport à tout ça, il peut y avoir un sentiment de désespérance un petit peu. Quel message vous adresseriez à celles et ceux qui sont touchés par cette désespérance ?
Il faut pas désespérer. Moi, dans mon bureau, il y a de quoi se flinguer. Honnêtement, on est dirigé par des, je vais pas être vulgaire, mais l'autre jour, j'ai déjeuné avec un grand, grand diplomate, un monsieur qui a 20 ans de plus que moi, qui est un de ceux qui a négocié les accords d'Oslo pour faire la paix entre Israël et Palestine en 91, 93, et voilà. Il avait le moral à zéro, on a dîné ensemble, et trois fois pendant le dîner, il m'a dit, on est dirigé par des connards. Tu sais, Pierre, on est dirigé par des connards. Pourtant, c'est un monsieur poli, un grand. Il me dit ce qu'il faut faire pour faire la paix entre Israël et la Palestine. Mais déjà, on le savait en 93. En 99, il m'a dit, je t'enverrai le texte qui a été signé par tous les chefs d'État européens. En mars 99, on dit à Israël, maintenant, on arrête les bêtises. Dans un an, en 2000, vous aurez fait la paix entre Israël et Palestine. Voilà. Et puis, on les a laissés faire et on a laissé des extrémistes prendre le pouvoir. Il dit, sur la question du climat, ce que tu proposes avec Jean Jouzel, c'est une évidence et on le fait pas. Ce que tu dis sur la semaine de 4 jours, c'est évident qu'il faut travailler moins. Aussi, non, voilà. Il me dit, on est dirigé par des connards. Donc oui, il y a de quoi être en colère. Mais déjà, je suis nul en littérature, mais dans le Hamlet, la grande tirade « to be or not to be », une des raisons qui fait que Hamlet a envie de se flinguer, c'est déjà l'inertie des politiques, le cynisme des politiques. Donc déjà, à l'époque de Hamlet, on voyait des politiques qui sont tout contents, qui se trouvent beaux quand ils se regardent dans le miroir, ils sont bien habillés, ils gèrent leur carrière, ils gèrent leur petite cour et ils s'occupent pas du bien commun. Donc hélas, voilà. Et si on est complètement écœuré, si on baisse les bras, on va laisser la place à des cyniques, ce sera pas mieux. Et donc il faut garder l'espoir. J'ai eu la chance de travailler très longtemps avec Stéphane Hessel, celui qui a fait le livre Indignez-vous. C'est un magique, magnifique. Et encore 3 jours avant sa mort, quelques jours, il m'a dit, Pierre, viens me voir. Il était dans son lit. On a fait le bilan de sa vie. Et il me dit, il faut lutter contre le désespoir. Il faut vraiment lutter contre le découragement. Beaucoup de gens pensent qu'on est dans un système qui va dans le chaos et qu'on n'arrivera pas à éviter le chaos. Mais il faut dire, on a connu des systèmes monstrueux qu'on croyait immuables, on a réussi à les mettre par terre. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud, quand Mandela, il a fait quoi, 27 ans de prison, les Noirs étaient traités de façon scandaleuse, mais on a fait tomber l'apartheid. On a connu le mur de Berlin, vous, ça vous dit rien, vous êtes plus jeune que moi, mais moi, c'est mon dernier cours d'histoire quand j'étais à Sciences Po. En 89, en avril 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous a dit qu'on ne verrait jamais la fin du mur de Berlin. C'était le meilleur spécialiste de l'Allemagne, il nous a dit que le mur de Berlin restera là tout le temps, et 5 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé, mais c'est pas les grands chefs, c'est pas Gorbatchev, c'est pas Helmut Kohl, c'est pas Mitterrand qui ont fait le job, ce sont des gens comme vous et moi, on voit des jeunes et des vieux, c'est des gens qui en avaient marre, qui juste voulaient être heureux. Et juste, ils se disent, je n'ai qu'une vie, j'ai envie d'être heureux ou heureuse, et ce mur de Berlin fout en l'air ma liberté, fout en l'air ma vie. Et donc, ils sont sortis, au début, ils étaient 30, ils étaient 3000, ils étaient 30 000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin, alors que 2 mois avant, tout était calme. Et donc, c'est des gens comme vous et moi qui ont fait envie d'être heureux, qui ont fait tomber un système politique qui foutait en l'air leur liberté et leur joie de vivre. Donc, je crois aujourd'hui qu'on est nombreux à se dire que ce système économique qui fait de plus en plus de précaires, ce système économique qui fout en l'air la planète, même le pape François, on a été reçu par le pape avec Cyril Dion il y a 3 ans, et même le pape